Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Avec moi en studio aujourd'hui, un professeur de l'Université de Tours. Bonjour Hélène Morel-Indard.
Bonjour, merci.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Hélène Morel-Indard, vous êtes professeure de littérature française. Vous êtes responsable du M1 Recherche Littérature Française et Comparée. Et si nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, c'est surtout parce que vous êtes, entre autres, spécialiste du plagiat.
Oui, je plagie beaucoup, c'est ce que vous voulez dire.
Ah, pas du tout. Et alors, je précise que cette émission autour du plagiat, parce qu'évidemment, grâce à vous, on va pouvoir en savoir un peu plus sur ce qu'est le plagiat, d'où vient-il, je la dédie à deux étudiantes de licence, voilà, qui m'ont fait part de leurs inquiétudes sur le fait qu'elles ne savaient plus trop bien ce qui relève du plagiat ou non, et qu'elles avaient peur d'être sanctionnées dans le cadre de travaux universitaires, parce qu'elles ne savaient plus très bien ce qu'elles pouvaient écrire ou ne pas écrire dans leurs devoirs. Voilà. Donc le plagiat, c'est devenu, comme vous le disiez tout à l'heure, avant que débute cette émission, c'est devenu une vraie inquiétude de la société, de l'université, puisque quand vous avez commencé à travailler là-dessus, peut-être que c'était pas vraiment un sujet.
Effectivement, ces étudiants de licence ont le mérite hein, de s'interroger sur la question de l'originalité et du plagiat, et en particulier, bien sûr, dans leurs travaux, dans leurs copies d'examen. La question du plagiat, elle va se poser de façon encore plus cruciale lorsqu'elles seront en master l'année prochaine. Et je pense évidemment aujourd'hui beaucoup aux doctorants qui écrivent de véritables œuvres. Hein. La thèse est destinée à être publiée, c'est un ouvrage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pensé à consacrer cette émission aujourd'hui sur ce sujet tout à fait délicat. Hein. C'est complexe, le curseur est très mobile entre ce qui relève d'un recopiage illégal et ce qui relève finalement d'un emprunt légal, la citation par exemple, mais dans quelles limites? Là encore, les étudiants sont souvent inquiets et demandent des précisions.
Voilà, alors Hélène Morel-Indard, vous avez fait une thèse sur le plagiat et vous avez continué à faire plein de travaux et de publications sur ce sujet. Et on voit que c'est devenu un sujet quand même très important. Peut-être que ça ne l'était pas quand vous avez commencé à vous y intéresser.
C'était un non-sujet. Personne n'en parlait. Et on peut se demander comment moi-même j'ai eu l'idée de m'intéresser à cette espèce de case vide dans le domaine de la recherche. Tout simplement parce que j'étais fascinée en tant que littéraire par la notion de chef-d'œuvre, de chef-d'œuvre, d'originalité. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que... par exemple, la Joconde, c'est considérée comme un chef-d'œuvre absolu, tout à fait original. Qu'est-ce qui fait que Madame Bovary de Flaubert demeure dans l'imaginaire, hein, cette sorte aussi de texte tout à fait original où la vision personnelle de Flaubert s'impose comme quelque chose d'absolument inédit et unique. Et comme je me suis bien vite rendu compte que la question de l'originalité était absolument impossible à traiter, enfin c'est un sujet à l'infini, je me suis dit que j'allais prendre la question à rebours et je me suis attaquée à l'extrême inverse de l'originalité, c'est-à-dire le plagiat. Je me suis dit là je vais remonter petit à petit de l'imitation vers la création et je vais comprendre comment on peut définir l'originalité. J'ai fait ce cheminement avec passion et avec beaucoup de recherches, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans le droit, parce que là j'ai touché évidemment aux questions juridiques du droit de l'auteur, mais sans parvenir à donner... Eh bien, à mettre le point final à cette question, puisqu'aujourd'hui encore, comme vous le remarquez, eh bien, le sujet est finalement devenu très à la mode. C'est vrai que quand j'ai publié en 1999 mon premier ouvrage sur la question aux presses universitaires de France du plagiat, eh bien, c'est pas un livre qui a été extrêmement retentissant. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, il est ressorti chez Gallimard dans la collection Folio, donc on peut l'acquérir pour une dizaine d'euros. Et là, c'est effectivement un grand éditeur, Gallimard, qui a compris en 2011 que le temps était venu de s'intéresser au plagiat. Il y avait des affaires retentissantes à l'époque, hein, déjà très médiatisées.
Vous voulez les rappeler ?
Oui, enfin, ce sont évidemment des affaires. Il y a beaucoup de noms hein, qui ont circulé, Alain Minc, Patrick Poivre d'Arvor, Irène Frein. Enfin, malheureusement, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à manier. Et quand j'ai été sollicitée pour intervenir sur tous ces cas, et à chaque fois, j'avais un peu l'impression d'être sur un fil, parce que il faut être extrêmement prudent dans la manière hein, dont on aborde le sujet, et surtout quand il y a des enjeux que vous imaginez très lourds en termes de réputation et de finances hein, pour ces personnalités.
Alors voilà, si nos auditeurs sont curieux, ils pourront aller chercher tous ces noms que vous venez de mentionner. Mais peut-être, Hélène Morel-Indard, que vous voulez maintenant définir plus précisément ce qu'est le plagiat. Parce qu'on résume assez facilement le plagiat, c'est du vol. Mais peut-être qu'on peut être plus précis pourquoi c'est du vol et pourquoi certaines formes qui pourraient s'apparenter à du plagiat, finalement, n'en sont pas.
Oui, alors déjà le plagiat, et on peut peut-être le préciser, n'est pas un terme juridique, il n'apparaît pas dans le code de la propriété intellectuelle, c'est le terme de contrefaçon. Voilà. Juridiquement, c'est donc le terme de contrefaçon qu'il convient d'utiliser. Qu'est-ce que la contrefaçon ? C'est une reproduction illicite, hein, une reproduction qui est un délit. Le plagiat, eh bien, est un terme plus de critique littéraire. C'est un emprunt, bien sûr, mais il n'a pas nécessairement le caractère délictuel qu'a la contrefaçon. Vol, oui, mais le mais est très important, bien sûr, puisque, par exemple, le mouvement littéraire de l'Oulipo, ouvreur de littérature potentielle, s'est amusé de la notion de plagiat par anticipation. Lautréamont aussi fait l'éloge du plagiat. Il y a des pratiques d'écriture qui relèvent de la réécriture, recréation. Et que ce soit en littérature, que ce soit en peinture, en photographie, en musique, tout un nombre de pratiques, voilà, de création, qui ne sont pas de la création ex nihilo. D'ailleurs, la création ex nihilo n'existe pas. La création à partir de rien n'existe pas. Ce sont effectivement des formes de reprise, d'influence, de recyclage. Alors, je pense au sampling en musique, je pense au collage en peinture. À partir de quel moment, effectivement, on peut être créatif, original, alors même qu'on réécrit, qu'on reprend, qu'on recycle, qu'on remploie. Voilà, le terme de remploi d'ailleurs existe aussi en architecture. C'est dire si finalement il n'y a que des cas particuliers et à chaque fois il faut se pencher sur tout ce processus de création à l'œuvre pour essayer de comprendre si l'emprunt est purement servile ou au contraire s'il ajoute une plus-value à l'œuvre d'origine.
Alors voilà, nous ne faisons que nous entregloser, disait Montaigne. C'est...
Oui, très jolie formule. Merci de la citer. Montaigne, dans les essais, rappelle que lui-même eh bien, ne fait que cueillir les fleurs ici et là, chez les anciens, les latins, les grecs. Et même, quelquefois, Montaigne se dispense de mettre de guillemets aux citations. Alors ça, je ne le conseille absolument pas aux étudiants, ni même à mes collègues et à moi-même, chercheurs. Montaigne écrivait au XVIe siècle. Il avait un public d'humanistes comme lui. Et c'était donc un public assez restreint, d'érudits, qui avait les mêmes références que lui. Donc quand il citait sans guillemets, sans référence, c'était évidemment un clin d'œil, c'était un hommage, mais comme vous le disiez à l'instant, on est entre soi, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur cet argument de l'entre-soi pour se dispenser des guillemets. Voilà, le conseil que je voudrais donner aujourd'hui aux étudiants, lorsqu'ils font des recherches pour leur mémoire ou même pour un exposé au niveau de la licence, c'est, dès qu'ils commencent à faire des recherches documentaires, c'est de noter les sources, que ce soit d'ailleurs des sources imprimées ou des sources en ligne. Là, il faut être très clair là-dessus. C'est vrai que l'information est devenue très accessible par l'intermédiaire d'Internet. La dématérialisation des ressources documentaires a entraîné, et on doit s'en réjouir, une facilité d'accès à une documentation énorme. C'est un point très positif, certes, mais il ne faudrait pas non plus en déduire que toute cette documentation dématérialisée, facilement accessible, souvent gratuite sur Internet, elle n'est pas protégée. En réalité, que le support soit matériel, le papier, ou immatériel, le numérique, l'Internet, le code de la propriété intellectuelle, donc le droit d'auteur, s'applique de la même manière. Donc, chers étudiants, que vous trouviez votre documentation dans la bibliothèque, dans un livre imprimé, ou bien sur Internet, ou bien même dans toute cette documentation numérique que nous offre la bibliothèque universitaire, n'oubliez pas qu'il faut citer très précisément, non seulement l'œuvre, mais la page. Et si vous oubliez, au moment où vous faites votre recherche, de noter très précisément la source, vous allez perdre un temps terrible après coup pour retrouver dans vos notes pour retourner à la source, voilà, pour citer exactement. Et d'ailleurs, hier, je faisais un cours avec mes étudiants de master première année de lettres recherche, et donc une bibliothécaire de la bibliothèque universitaire de lettres Tanner nous expliquait toute l'utilité du logiciel Zotero. C'est vrai qu'avec ce logiciel de bibliographie Zotero, eh bien vous pouvez très facilement importer les références bibliographiques dans votre document Word avec une grande précision et un minimum d'erreurs. Il faut toujours relire, bien sûr, mais c'est un logiciel qui devrait vous donner l'habitude, dès que vous consultez une source, hein, que ce soit sur papier ou numérisé, prenez l'habitude de noter la source, voilà. Et ça apparaît soit en note de bas de page, soit en pleine page, soit dans votre bibliographie. Donc vous voyez que vous avez quand même trois lieux, aussi bien dans votre copie d'exposé que dans votre mémoire ou votre thèse, il y a trois lieux pour bien montrer à votre lecteur, que ce soit votre directeur de thèse, votre enseignant, votre directeur de mémoire, que vous êtes un étudiant extrêmement sérieux, qui a pleinement conscience de ce que c'est que l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Voilà, hein, vous choisissez pleine page, note de bas de page, bibliographie.
Merci Hélène Morel-Indard pour toutes ces recommandations. J'espère que nos auditeurs s'en souviendront. Et puisque vous parliez tout à l'heure, comment dire, de l'hommage ou alors de l'idée d'entre-soi intellectuel, hein, au sujet de Montaigne, j'ai trouvé là, alors on fait un bond dans le temps quand même, parce que je vais lire un tout petit extrait de Black Bazar de Alain Mabankou, parce qu'on retrouve cette idée de, comment dire, d'hommage. Vous allez pouvoir nous dire si ça relève de l'hommage. Alors je lis donc un extrait de Black Bazar d'Alain Mabankou. C'est pour ça qu'à la différence de notre arabe du coin, moi, je respecte les Chinois et les Pakistanais. Ce sont des braves types à qui on colle injustement la mauvaise réputation qu'ils se démènent ou qu'ils restent quoi, alors qu'ils ne font de mal à personne. Donc là, évidemment, Alain Bancou cite, sans le citer, c'est Georges Brassens. Et dans cet ouvrage, on trouve énormément d'extraits des chansons de Georges Brassens. Et évidemment, il n'y a aucun guillemet, ça passe dans le texte, c'est intégré, inclus dans les phrases. Alors Hélène Morel-Indard, est-ce que là il s'agit d'un hommage ou est-ce qu'on pourrait l'accuser de plagier Georges Brassens ?
Il s'agit évidemment d'un hommage, hein, dans ce cas-là, vous avez tout à fait raison. Je crois malgré tout qu'aujourd'hui il faut être relativement prudent. Bon, c'est vrai que là la référence à Brassens est assez claire, encore que ça dépend de quelle génération s'adresse. Peut-être que ce clin d'œil n'est pas aussi parlant pour un étudiant d'aujourd'hui que pour un lecteur qui aurait une quarantaine ou une cinquantaine d'années, je ne sais pas, voire plus. Cet exemple-là me fait penser au roman de Houellebecq, où il y avait eu une affaire, hein, justement autour de ce roman. Et voilà, Houellebecq avait inséré des pages de Wikipédia sur la ville de Beauvais et sur aussi la mouche. Il avait aussi inséré une page du ministère de l'Intérieur sur le métier de commissaire. Et bon, pour lui, c'était un jeu. Ça relevait vraiment de l'esthétique du collage, hein, comme on peut l'avoir en peinture, par exemple, chez Braque, chez Picasso. En réalité, Houellebecq ne s'attendait pas à être attaqué par Wikipédia, qui lui a reproché de ne pas avoir signalé ses emprunts. Alors c'est vrai que c'était des emprunts qui étaient plus longs, hein, que celui que vous venez de citer. C'était quasiment une page entière ou une demi-page à chaque fois. Et la prudence voudrait malgré tout, même quand on s'amuse comme ça à faire des clins d'œil ou à rendre des hommages, il vaut mieux remercier voilà, dans une préface et même plus prudemment encore, demander l'autorisation, être sûr qu'on est bien autorisé à faire ce genre d'allusion, de référence implicite, finalement, après coup. Hein, Houellebecq a remercié dans son ouvrage, dans son roman Wikipédia, mais c'est un jeu un peu dangereux aujourd'hui, chacun est très arc-bouté sur ses intérêts, sur sa propriété, et comment pourrait-on le reprocher à une époque finalement où l'individualisme, les questions de rentabilité financière sont primordiales. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Alors, pour Wikipédia, le public était un peu étonné de voir une telle revendication parce que on croit qu'il n'y a pas d'auteur. Mais si, en réalité, tous les auteurs peuvent être identifiés, hein, à l'arrière-plan de Wikipédia. Si vous intervenez, vous êtes parfaitement identifié en tant qu'auteur. Et même si c'est toute une collectivité qui travaille, hein, pour cette encyclopédie collective, ce n'est pas totalement libre de droit. Wikipédia revendique quand même sa propriété sous la forme de la Creative Commons licence. Voilà, donc c'est une forme quand même de licence qui autorise la reprise librement, sans demande d'autorisation, mais à condition que l'emprunt soit signalé. Voilà. Donc il aurait au moins fallu que Houellebecq signale son emprunt. Même à la limite, sans demande d'autorisation préalable, hein, puisque c'est un type de licence qui le permet.
Voilà, donc Creative Commons. Et pour en finir avec Alain Mabankou, il se trouve que dans Black Bazar, il cite sans citer Brassens, mais il l'indique quand même, puisqu'il parle, il dit « le chanteur de Sète ». Voilà, oui. Le chanteur de Sète. Voilà. Donc c'est une...
Très bien, voilà, c'est effectivement là un clin d'œil, une référence. C'est un peu allusif, mais je crois que là c'est suffisant, effectivement.
Bon, alors il ne sera pas condamné pour cette intégration des chansons de Brassens dans cette œuvre. Je propose, Hélène Morel-Indard, de faire une première pause musicale. Et puisque vous parliez aussi d'emprunts musicaux au début de cette émission, je propose d'écouter Vera Hall qui chante Trouble So Hard. Alors pardon pour mon excellent accent. Et cette chanson de Vera Hall, elle a été captée par Alan Lomax. Et à l'écoute, je pense que nos auditeurs vont tout à fait peut-être penser par exemple à Moby qui a repris allègrement cette chanson et qui a, comment dire, brodé peut-être musicalement autour. Et donc là, peut-être que vous pourrez après détailler les différentes espèces, disons, de plagiat à partir de ça. On écoute donc Vera Hall, captée par Alan Lomax en 1960 dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the other day. Soul got happy and stayed all day. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my... Oh, Lordy, my trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour et nous venons d'écouter un extrait de Vera Hall, Trouble So Hard, toujours mon excellent accent, excusez-moi, capté en 1960 par Alan Lomax, suivi d'un extrait de la chanson Natural Blues par Moby. Et donc, Hélène Morel-Indard, peut-être voulez-vous réagir sur ces deux chansons ?
Oui, là, c'est quand même très, très troublant, effectivement. Il y a des variations qui sont plus subtiles, plus difficiles à identifier. Mais là, la mélodie est la même. Après, évidemment, un changement de rythme. Il y a une accélération du rythme. L'orchestration est différente. Pour oui, les questions de contrefaçon en musique sont très fréquentes, avec souvent des enjeux financiers plus importants même qu'en littérature. Et voilà, les critères sont multiples, mélodie, orchestration, rythme. Là, on a un exemple tout à fait intéressant où la ressemblance est flagrante. La législation, la réglementation, évidemment, elle varie selon les pays, mais globalement, on a quand même deux aires juridiques internationales qui prévalent sur notre planète. Le droit français s'est imposé globalement dans toute l'Europe. Et c'est un droit tout à fait particulier, avec une double prérogative à la fois pécuniaire et morale. C'est un droit de l'auteur qui protège l'auteur, le créateur. Et face au droit de l'auteur, eh bien, il y a tout le système anglo-saxon du copyright. Le copyright, comme son nom l'indique, c'est un droit non pas de l'auteur, mais de la copie. C'est-à-dire que les anglo-saxons privilégie davantage l'investisseur que le créateur. Alors progressivement, les deux systèmes juridiques se sont rapprochés, en particulier le droit moral qui protège le nom de l'auteur, donc la paternité de l'œuvre, le respect de l'œuvre. Ce droit moral qui est typiquement français, s'est progressivement introduit dans le système du copyright. Mais voilà, c'est pas parce qu'effectivement on a un modèle ou une source aux États-Unis et une reprise en France la question de la contrefaçon ne se pose pas. Ces questions sont internationales. Il y a un très bon exemple en littérature, c'est La bicyclette bleue de Régine Desforges. C'est un procès qui a pris des années, un véritable marathon judiciaire qui a eu lieu dans les années 80. Et ce sont les héritiers de Margaret Mitchell. Margaret Mitchell, l'auteur du célèbre roman « Autant en emporte le vent », qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Ce sont les héritiers donc, de Margaret Mitchell qui ont fait un procès à Régine Desforges et à son éditeur pour contrefaçon. Et c'est vrai que ces héritiers, ces ayants droit américains avait porté l'affaire devant les tribunaux français en espérant que le droit français soit plus protecteur. Finalement, ils ont perdu. À l'issue vraiment de plusieurs années, ils ont perdu, alors que quand on regarde de près, il y a vraiment de quoi s'interroger. Et l'issue de l'affaire favorable à La bicyclette bleue a pu paraître très surprenante aux juristes.
Alors Hélène Morel-Indard, peut-être, si vous le voulez bien, qu'on peut revenir sur cette exception française. Alors d'où ça vient cette importance de l'auteur qui, à un moment en France, à quel moment de l'histoire, a décrété que l'auteur avait une place particulière ?
C'est le XVIIIe siècle qui est le grand tournant dans l'histoire du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. C'est vrai que l'émergence de la notion d'individu et de propriété avec les droits de l'homme au XVIIIe siècle et tout le travail des philosophes des Lumières a eu une grande conséquence sur notre conception de l'œuvre, qu'elle soit littéraire, artistique. La France met très haut la création artistique et littéraire. Il y a comme une sorte de sacralisation même, avec une vision prométhéenne de l'œuvre littéraire. Comme si finalement, on a tout un imaginaire hein, de l'écrivain comme une sorte de dieu. Chez Victor Hugo, on a bien cette dimension quasiment sacrée de l'écrivain comme une sorte de guide qui va éclairer le peuple. Et c'est une vision très romantique hein, de la création littéraire. Même Théophile Gautier, dans son sonnet « Le pain payenne hein, » assimile le poète à un arbre qui s'élève vers le ciel, hein, donc vers une sorte d'absolu. Et cet arbre-là, comme le pin des Landes, il est blessé, il est taillé cruellement par les hommes pour en recueillir la sève. Ah, c'est toute une métaphore qu'il développe pendant tout son poème pour montrer à quel point l'écrivain se sacrifie au service du commun des mortels parce qu'il est inspiré par les dieux. Il est lui-même l'intermédiaire entre le dieu et les hommes. C'est l'albatros de Baudelaire aussi, bien sûr. C'est chez Mallarmé cette image de l'azur qui hante le poète parce que le poète, justement, il a cette vision intérieure qui lui donne accès à une vérité dont nous, les pauvres mortels, le commun des mortels, nous n'avons aucune conscience. Le premier poète, c'est Homère. Homère était aveugle. La vision du poète, elle est intérieure et elle va bien au-delà, bien sûr, que nos pauvres yeux peuvent le faire.
Et alors, est-ce que cette paranoïa du plagier, entre guillemets, est-ce qu'elle est franco-française ou est-ce qu'elle est vécue, en tout cas perçue différemment dans le monde ?
Je pense que dans le monde, il y a des enjeux financiers malheureusement qui prennent le pas sur notre propre vision idéalisée de l'écrivain. Il y a beaucoup de procès pour contrefaçon qui ne se justifient que pour des intérêts financiers. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus sous-estimer hein, cette question de la rémunération des créateurs. Ça me fait penser que le 15 novembre, je vais faire une conférence sur Balzac, militant des droits de l'auteur. Balzac, on le sait, était un génie créateur, un écrivain qui avait lui aussi cet idéal hein, d'une création absolue avec la comédie humaine. N'empêche que il se souciait aussi de son revenu au quotidien, hein, puisque, comme le disait Beaumarchais au XVIIIe siècle, la gloire ne suffit pas. Pour jouir de cette gloire du succès de son œuvre, eh bien, il faut manger 365 fois par an, au moins. Hein. Voilà, donc, La question de la rémunération des créateurs en France a longtemps été un sujet tabou, comme une honte qui entacherait la beauté du travail créateur. Et pourtant, dès le XVIIIe siècle, et là on doit beaucoup à Beaumarchais dans ce combat pour le droit d'auteur, cette question de la rémunération, elle a été mise à l'ordre du jour et Beaumarchais à lutter pour que ses contemporains, auteurs de pièces de théâtre, dramaturges, puissent être rémunérés, être payés pour la représentation de leurs pièces de théâtre. Hein. La Comédie française achetait quelquefois pour une somme dérisoire une pièce de théâtre et lorsqu'elle avait du succès, l'auteur n'en avait aucune retombée positive. Et c'est grâce à Beaumarchais que les premières lois sur la protection de l'œuvre ont été donc créées. Hein. C'est 1791, le droit de représentation des œuvres théâtrales et 1793, le droit de reproduction des œuvres littéraires. Voilà, ça c'est la naissance vraiment du droit de l'auteur à la fin du XVIIIe siècle, donc après la Révolution française, hein, une fois que tout le système des privilèges sous la monarchie s'est effondré grâce à la Révolution française, eh bien, on a vraiment pu mettre en place un droit de l'auteur. Mais cette conception d'un droit sur une propriété immatérielle a pris énormément de temps à se mettre en place, à s'appliquer et à s'affiner aussi. Et c'est pour ça qu'au XIXe siècle, Balzac doit encore intervenir auprès des députés pour faire valoir l'application de ces droits de l'auteur. Il propose aux députés un code littéraire, et Alfred de Vigny après lui aussi, et Victor Hugo, et Gérard de Nerval, tous ces écrivains qu'on imagine comme des créateurs totalement déconnectés de ces questions purement matérielles. Eh bien non, ils sont intervenus dans l'arène pour défendre ce droit à être payé pour son travail. Et Balzac a été l'initiateur de la création de la Société des gens de lettres. Il fallait rassembler les écrivains pour être plus forts, pour revendiquer leurs droits et obtenir effectivement que les œuvres ne soient pas pillées, contrefaites, en particulier à l'étranger, en Belgique, aux Pays-Bas. Après, les œuvres revenaient en France sous le manteau, clandestinement, et étaient vendues à des prix très bas, sans que les auteurs en aient la moindre retombée. Voilà,
et alors on peut ajouter, Hélène Morel-Indard, que après cette SGDL, là, cette Société des gens de lettres, il y a eu d'autres sociétés qui se sont formées beaucoup plus récemment pour protéger d'autres œuvres. Je pense par exemple à la SCAM, donc la Société civile des auteurs multimédia, ou alors la SACEM, qui c'est la Société des auteurs et compositeurs et éditeurs de musique. Donc là, on voit que ce souci, il n'est pas propre au littéraire, en fait.
Absolument. C'est la question de la création, de la protection du travail des créateurs. Alors, c'est une question très, très délicate, parce que si on protège trop le travail des créateurs, le risque, c'est qu'ensuite, eh bien, le public n'ait pas facilement accès. Soit que c'est trop cher, soit que la diffusion soit limitée. Voilà, donc il faut prendre en compte à la fois les intérêts des créateurs, parce que si un créateur n'est pas rémunéré de son travail, il ne pourra peut-être plus être en mesure de créer. Prendre en compte l'intérêt du créateur, mais aussi l'intérêt du public, de la société civile. Sans compter qu'on est plutôt finalement dans une configuration triangulaire. Il ne faut pas oublier tous les intermédiaires qui interviennent entre le créateur et le public. Les intermédiaires, en littérature, ce sont les éditeurs, au cinéma, ce sont les producteurs. Enfin, vous imaginez le nombre d'intermédiaires, les libraires aussi, bien sûr, les diffuseurs, les distributeurs. Il y a donc une sorte d'équilibre très difficile à maintenir entre les intérêts de ces trois agents de la création littéraire et artistique, le créateur, le public, et entre les deux, les intermédiaires qui doivent bien sûr rendre accessible, sous certaines conditions, l'œuvre à la société civile.
Voilà. Eh bien, merci Hélène Morel-Indard. Je propose à nos auditeurs et à nous-mêmes de faire une seconde pause musicale et nous allons écouter le psaume 137, oui, mais chanté par Bonéem, et on va écouter Rivers of Babylon sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne.
By the rivers of
Onéam sur Radio Campus Tours. Vous êtes toujours dans la Méridienne avec moi en studio, Hélène Morel-Indard, notre spécialiste du plagiat. Alors Hélène Morel-Indard, est-ce que Onéam peut être coupable de plagiat en chantant le psaume 137 ?
Le psaume, bien heureusement, est tombé dans le domaine public il y a bien longtemps. Voilà, ça c'est effectivement tout un... C'est le fond commun, hein, c'est le terme qu'on utilise, qui permet de puiser librement, hein, sans demande d'autorisation, sans question de droit d'auteur. Il faut quand même faire attention parce que dans le droit français, c'est le droit patrimonial, hein, qui est concerné par cette limite dans le temps, hein, du droit d'auteur. C'est-à-dire que 70 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Mais ça veut dire que, par exemple, si vous avez envie d'éditer un roman du 19e siècle, hein, Le Rouge et le Noir de Stendhal, par exemple, vous êtes tout à fait libre de le faire. C'est tombé dans le domaine public et cette édition peut vous rapporter de l'argent. C'est légal. En revanche, si vous dites « Ah, mais quand même, Le Rouge et le Noir, c'est un peu long pour des lecteurs d'aujourd'hui, on va couper un petit peu. Et puis, il y a certains termes qui sont peut-être un peu compliqués, pas très simples à comprendre. Alors, je vais mettre des synonymes à la place. » Là, vous tombez dans l'illégalité parce que vous dénaturez l'œuvre d'origine. Il faut savoir que dans le droit français, eh bien, il y a un double aspect, le droit patrimonial, hein, qui donne lieu à des droits pécuniaires, hein, une rémunération, c'est la question de la reproduction, qui devient totalement libre, on l'a dit, 70 ans après la mort de l'auteur. Mais il y a un autre aspect, un deuxième aspect, c'est le droit moral. Le droit moral, il est inaliénable et imprescriptible, c'est-à-dire sans limite dans la durée. Et ce droit moral, il recouvre le droit de paternité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « Tiens, je vais publier Le Rouge et le Noir en mettant mon nom à la place de Stendhal. » C'est tombé dans le domaine public, mais le droit moral, donc le droit de paternité, fait que on ne peut pas s'approprier le nom de l'auteur. Il y a aussi le droit au respect de l'œuvre. Vous ne pouvez pas dénaturer, transformer l'œuvre. Si vous voulez la publier, hein, si elle est tombée dans le domaine public, vous devez la publier dans le même état. Voilà, donc il faut aussi faire très attention au droit moral, hein, qui est donc sans limite dans le temps.
Voilà, merci Hélène Morel-Indard. Et alors, j'ai une question aussi sur... puisqu'on disait aussi que tout ça, c'est quand même culturel. Une question sur les sociétés où prédomine encore la culture orale. C'est-à-dire, oui, par exemple, l'idée de raconter une histoire, ou alors des blagues aussi, qu'on raconte de génération en génération, qui se transmettent. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde la connaît. Oui. Et en fait, ce qui fait la spécificité, c'est le talent du conteur, ou les éléments que le brodeur, s'il est bon, va rajouter. Et là, personne ne va crier au plagiat. En fait, personne ne va accuser quelqu'un d'avoir volé une histoire qui a déjà été racontée, puisque ça fait partie du jeu. En fait.
Oui, bien sûr, là, tout ce qui relève du folklore, la chanson non écrite, les légendes, c'est ce fond commun, hein, dont on a parlé à l'instant. Et y avait eu une affaire aussi retentissante qui touchait cette question du folklore cajun. C'était un roman de Jean Vautrin qui avait obtenu le prix Goncourt. Et dans ce roman, eh bien, figuraient des chansons et même des expressions de la langue cajun. Et Patrick Griolet, qui était un universitaire spécialiste de la langue cajun, avait fait un procès pour contrefaçon à Jean Vautrin, parce qu'il considérait qu'il avait puisé dans ses dictionnaires de la langue cajun, dans ses études lexicographiques. Et finalement, Jean Vautrin a eu gain de cause, parce que le tribunal a considéré que la langue cajun n'était pas la propriété de Patrick Griolet, même si effectivement c'est grâce à Patrick Griolet que ces chansons ont été recueillies, mises par écrit dans des ouvrages qui ont demandé énormément de travail, de recherche sur le terrain, de retranscription de l'oral à l'écrit, avec une explicitation de termes, de vocabulaire. Eh bien, c'est vrai que ça a été terrible pour cet universitaire de découvrir qu'au regard de la juridiction française, il n'y avait aucun droit d'auteur sur tout ce matériau linguistique.
Voilà, et bien merci Hélène Morel-Indard. Cette émission, hélas, touche déjà à sa fin. Alors, avant de se quitter, peut-être qu'on peut faire un instant agenda culturel. Il me semble qu'il y a deux conférences qui se profilent à l'horizon et que vous avez sorti il y a peu de temps un livre.
Oui, alors justement, sur cette question de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche, les doctorants sont concernés au plus haut point. Lundi 18 novembre à 14h, l'INRA donc, organise sur son site de Nouzilly une conférence sur la question de l'intégrité scientifique avec Monsieur Le Gall. Et le 9 janvier, les écoles doctorales de l'Université de Tours organisent la conférence pour les doctorants sur l'intégrité scientifique avec Sophie Fouchecourt et moi-même. Et oui, j'ai le plaisir de voir paraître il y a quelques jours l'ouvrage que j'ai dirigé sur les femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes. Et c'est pas un hasard si finalement je suis arrivée à m'intéresser au travail de ces femmes dans l'ombre des grands hommes. Parce que souvent, ça a été des ce qu'on appelle les petites mains, les relectrices, les secrétaires, plus que les muses, des collaboratrices qui n'ont pas toujours osé revendiquer leur part de travail et particulièrement au XIXe siècle, qui n'ont pas toujours osé publier sous leur propre nom. La grande George Sand, pourtant elle était une grande écrivaine, elle a publié énormément, elle était reconnue, admirée par ses pairs, par Balzac, par Flaubert. Néanmoins, vous voyez, elle n'a pas écrit sous son propre nom, Aurore Dupin. Elle a pris un nom, et en plus un nom d'homme, Georges, qui était Georges Sand, Sandeau, c'était le nom de son amant, Jules Sandeau. Voilà comment les femmes ont bien eu du mal à entrer en littérature et dans l'histoire littéraire.
Merci Hélène Morel-Indard. Alors pour nos auditeurs que ces questions intéressent, je souhaite rappeler aussi que vous avez un site consacré au plagiat. Alors il s'appelle leplagiat.net, ce site, et dessus on trouve énormément de choses.
Oui, alors malheureusement il n'est pas au meilleur de sa forme parce qu'il a été violemment piraté et à plusieurs reprises. C'est un sujet extrêmement sensible et peut-être que certaines affaires qui étaient diffusées sur ce site ont suscité des réactions un peu violentes. Mais bon, voilà, c'est une première approche de la question.
Voilà, on trouve quand même beaucoup de ressources sur ce site, même s'il est en pause, disons, depuis un moment, pas si long que ça, faut pas exagérer. Merci beaucoup à vous, Hélène Morel-Indard, d'avoir accepté cette invitation dans La Méridienne. Et on va se quitter en écoutant, on va écouter Toto Bicinthe. Et voilà,
merci beaucoup à Radio Campus.
Merci à vous.
Papa loco, c'est bon, pour s'en aller. Nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagwe, et tout ça qui dit bien, j'aime l'ailleurs. Et tout ça qui dit mal, j'aime l'ailleurs. Papa loco, où c'est vrai, pour s'en aller. Nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagwe. Papa loco, où c'est bon, où c'est n'allé, où c'est papillon. beauté, nouvelle Bayagoué, et tout ça qui dit bien. Tout ça qui dit malo, papa loco, poussé n'allé, poussé papillon, la beauté, nouvelle Bayagoué. Loco.